France Inter, le 7-10.
Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est la présidente de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
Et à ce titre, Nicolas, elle a la haute main sur la gestion de Sciences Po, la fameuse école, celle qui fait couler tellement d'encre. Récit d'une semaine explosive, le directeur visé par une affaire de violence conjugale a donné sa démission. Certaines organisations étudiantes trouvaient son maintien injustifiable. Même jour, un amphi a été occupé sans autorisation par des étudiants pro-palestiniens qui auraient, je dis bien qui auraient, interdit l'entrée du meeting à une étudiante au prétexte qu'elle était juive. Énorme scandale, même le président de la République s'en est mêlé. Bonjour, Laurence Bertrand d'Orléac.
Bonjour, Sonia Divillier.
La fièvre retombe un peu. On se rend compte maintenant que les témoignages se contredisent. Êtes-vous en mesure d'établir les faits? Y a-t-il eu, oui ou non, dérapage antisémite le 12 mars dans vos locaux?
Écoutez, il s'est passé des choses absolument condamnables, en ce sens qu'on ne peut pas empêcher un cours, et il y a 300 associations à Sciences Po, elles doivent demander l'autorisation de se réunir. En l'occurrence, l'amphi Boutmy a été occupé par des étudiants, et quelle que soit la cause de ces étudiants, c'est une première erreur. D'autres erreurs...
C'est une occupation sauvage.
On peut dire que c'est une occupation qui n'avait pas été autorisée. Mmh. D'autre part, des signalements ont été faits et qui sont concernent des faits qui sont là aussi condamnables. Si une étudiante a été empêchée d'entrer dans cet amphi au motif qu'elle appartient à une organisation de jeunes étudiants juifs de France, c'est absolument condamnable. Une enquête est en cours, une enquête administrative. Mm-hmm. Dès le lendemain, une enquête administrative était décidée. Les premières auditions auront lieu dès ce matin. Et d'autre part, un article 40 a été déposé, c'est-à-dire donc un signalement au procureur de la République. Et nous attendons les résultats de l'enquête, mais nous serons intraitable.
Intraitable pour l'occupation de cet amphi et pour ce qui aurait été prononcé à l'encontre de cette étudiante, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'entrer dans cet amphi au motif que vous êtes sioniste. C'est important de bien réfléchir à tout ça, parce que cette étudiante elle-même dit ne pas avoir entendu cette phrase. Il y a 37 étudiants et étudiantes juives et juifs qui ont signé une tribune de leurs initiales pour dire mais nous sommes juifs, nous étions à l'intérieur de cet amphi, nous y avons été chaleureusement accueillis et associés à cette discussion. Donc vous voyez bien que les témoignages se contredisent.
C'est juste, et encore une fois, ces enquêtes diront ce qu'il s'est passé exactement. S'il y a eu des actes d'ordre antisémite, nous serons intraitables. Encore une fois, la justice est en cours et l'enquête interne est en cours.
Alors, est-ce que vous rendez aux arguments de l'Union des étudiants juifs de France qui dénonce une inquiétude latente, un climat qui est propice à la dérive antisémite? C'est-à-dire le patron de l'UEJF dit il n'y a pas d'antisémitisme par principe à Sciences Po, mais depuis le 7 octobre, il y a des positions qui se sont radicalisées face à l'attitude d'Israël et qui glissent vers l'antisémitisme. Est-ce que vous êtes inquiète de cette situation?
Je suis forcément inquiète de cette situation. Étant une historienne de la Seconde Guerre mondiale, je suis très attentive à tous les actes antisémites qui peuvent se produire. Bien, je constate effectivement un raidissement du climat et il est normal que je m'en soucie. Mais attention à ne pas opposer les communautés entre elles et les étudiants entre eux. C'est une communauté étudiante unie, la communauté de Sciences Po. Et je constate que d'ores et déjà, une réunion est prévue, une rencontre entre les jeunes étudiants donc de l'organisation des Juifs de France et le comité Palestine et
ils vont se parler.
Les étudiants. Oui, enfin.
Et vous avez encouragé le fait qu'ils se rencontrent et qu'ils
évidemment,
se parlent.
Évidemment que nous avons encouragé, et c'est ce que nous faisons en permanence. Donc attention de ne pas opposer ces étudiants qui déjà sont suffisamment sur des positions effectivement différentes. C'est un lieu de débat. Que je sache, la plupart des événements qui ont eu lieu, à l'exception peut-être de celui-là, et encore une fois, ce sera la justice d'en juger, effectivement, je n'ai jamais constaté ni de heurts, ni de manque de respect dans le dialogue.
Mais alors c'est intéressant parce que Madame la Présidente, vous me dites attention à moi, mais le Premier ministre, en quelques heures, se rend dans vos locaux. Il a des phrases extrêmement violentes, hein, le Premier ministre Gabriel Attal, qui est l'un de vos anciens élèves. Il dit « le poisson pourri par la tête ». Il est accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'y a pas moins de 3 ministres qui vont s'indigner. Le lendemain, le Président de la République lui-même va soulever la question et parler de séparatisme, de risque de séparatisme en Conseil des ministres. La Présidente de l'Assemblée nationale en parle, le Président du Sénat en parle, les élus RN en parlent, les insoumis s'en empare. Quelle leçon vous tirez de cette réaction politique ?
Pardon, la leçon, c'est que c'est la rançon de la gloire de Sciences Po. C'est-à-dire que effectivement, Sciences Po attire tous les regards. Et je constate que le Premier ministre est un ancien élève de Sciences Po, et je prends effectivement sa visite à Sciences Po comme une marque d'intérêt. Et je constate en effet que nous sommes littéralement sous les feux des projecteurs en permanence. Il faut aussi se poser la question.
C'est ce qu'on appelle un emballement médiatique. C'est ce qu'on appelle des politiques qui se ruent dans l'arène avant même de savoir ce qui s'est passé dans cet amphibout-mi.
Mais est-ce bien raisonnable de s'emballer ? En tout cas, nous sommes une université et je vous rassure, nous avons 15 000 étudiants qui étudient chaque jour. Nous avons 300 professeurs, chercheurs qui leur enseignent.
Donc vous avez l'impression d'être instrumentalisé ?
Non, j'ai pas l'impression d'être instrumentalisée. J'ai simplement l'impression que notre école fait l'objet d'un intérêt peut-être, disons, déraisonnable.
Et elle fait l'objet aussi depuis de longues dates, hein, depuis plusieurs années, de critiques, de suspicions, d'enquêtes, de polémiques. Elle est dénoncée par certains comme un lieu qui favoriserait la radicalisation des étudiants, la gauchisation des étudiants, les combats communautaires, la cancel culture. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs qui, évidemment, s'empare d'une affaire comme celle-ci,
mais écoutez,
immédiatement.
Oui, c'est vrai, mais avant que je ne réponde, en fait, ce sont les 15 000 élèves des lycées et des collèges qui se présentent cette année à Sciences Po, c'est-à-dire davantage encore que l'année dernière. C'est ça la vraie réponse, en réalité. Pourquoi Sciences Po attire à ce point les élèves ? Pourquoi ? Pourquoi on vient faire Sciences Po ? Pourquoi le Premier ministre norvégien aujourd'hui a fait Sciences Po ? Pourquoi l'ancienne présidente du Sri Lanka a fait Sciences Po ? Pourquoi l'actuelle présidente de la Géorgie a fait Sciences Po ? Voilà, je vous retourne la question. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'enseigner, c'est de chercher, c'est d'être accompagné par 1000 salariés. Est-ce que vous croyez que ça amuse les 1000 salariés d'être sous les feux des projecteurs alors que tout le monde est au travail aujourd'hui ? Tout le monde ! Et l'événement pour lequel vous m'invitez est l'exception qui confirme la règle.
Alors, il y a deux événements pour lesquels il est important de vous entendre. Laurence Bertrand d'Orléac, vous avez remplacé il y a 3 ans Olivier Duhamel, mis en cause dans une affaire d'inceste, on s'en souvient. Vous aviez 2 chantiers prioritaires en prenant votre poste. Mettre en œuvre des mesures concernant les violences sexuelles et sexistes et nommer un nouveau directeur, ce fut Mathias Vichra. Patatras, voilà le Mathias Vichra lui-même renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales. Vous avez accepté sa démission. Il vous l'a remise la semaine dernière. Trouviez-vous comme lui que sa position était intenable ?
Non, tout d'abord je voudrais rectifier les faits. Mathias Vichra a été renvoyé au tribunal correctionnel ainsi que son ex-compagne.
Oui.
Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas eu à accepter sa démission puisqu'il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il a un grand sens des responsabilités. Mathias Vichra, que je sache, est toujours présumé innocent, hein, jusque-là, oui, jusqu'à nouvel ordre. Et d'autre part, il a été un excellent directeur. Voilà, je m'arrêterai là.
Non, on peut pas s'arrêter là complètement. C'est-à-dire, il est présumé innocent. Alors, en quoi il doit démissionner s'il est présumé innocent ? Je rappelle qu'il y a une ministre qui est doublement mise en examen au gouvernement et que ça, justement, parce qu'elle est présumée innocente, ça fait consensus. Pourquoi est-ce qu'il doit démissionner ?
Tout simplement parce que le temps de la justice est le temps de la justice. Et notre tempo est notre tempo à Sciences Po. Nous avons besoin d'une direction. Nous avons besoin d'une direction tout simplement parce que c'est effectivement le directeur exécutif qui fixe un certain nombre à la fois de règles, qui les fait respecter et qui œuvre pour les programmes.
Donc il ne peut pas être à la fois à son futur procès et à la direction de l'école.
Exactement.
Est-ce qu'il aurait dû démissionner avant ?
Non, certainement pas, parce que les résultats de l'enquête préliminaire n'étaient pas connus, et je ne regrette pas un seul instant que, de manière la plus consensuelle possible, cette décision ait été prise, effectivement, de son retrait.
Merci.
Et merci Sonia De Villers.